Mars Africa.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi, très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mars Africain ce samedi 20 avril 2024. On est ensemble pour une heure de direct et pour l'actualité. Faire un tour d'horizon de l'actualité en Afrique, de 10h à 11h du matin. On parlera évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations Futsal avec la qualification de l'équipe nationale du Maroc qui affronte l'Angola demain. Le Maroc qui s'est imposé 6-0 face à la Libye hier. L'actualité en Afrique dominée aussi par les compétitions africaines avec notamment les demi-finales de la Champions League ainsi que les demi-finales de la Coupe de la CAF avec notamment, incroyable mais vrai, le scandale, ce qui s'est passé hier en Algérie, l'accueil de l'équipe d'El Berkane. On va en parler évidemment, c'est une situation complètement lunaire et surréaliste. Mais d'abord, pour commencer, le Flash Info avec Mehdi Benelal. Sbah al-khair Mehdi.
Sbah al-khair Hamid, tahia moussami Radio Mars. موجز الأخبار. عقب مباحثات أجرى مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد الوزير رئيس حكومة جهة بروكسل العاصمة أمس الجمعة بالرباط أن المغرب وبلجيكا يوحدهما ماضي وحاضر ومستقبل مشترك، مبرزا الشراكة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وأكد الصداقة المتينة التي تقوي أسس مستقبل مشترك. المباحثات تمت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات بين المغرب وبلجيكا على غرار تلك القائمة مع جهة بروكسل العاصمة والتي تضم أكبر جالية بلجيكية مغربية في البلاد. على هامش الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لإفريقيا والمنظمة بالمغرب، أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ونظيرة غينيا بيساو فاطمة جاو مباحثات ناقش خلالها الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة والري والأمن الغذائي. وبهذه المناسبة أبرزت وزيرة الفلاحة والتنمية القروية بغينيا بيساو أهمية اللقاء والذي يمنح زخما جديدا للتعاون الثنائي في المجال الفلاحي. كما أشاد وزير الفلاحة المالي لاسين ديمبلي اليوم بالتقدم الذي حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير المياه، خاصة برنامج إنجاز السدود المتطور جدا والذي يمثل قطاعا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمالي، مؤكدا في تصريح عقب مباحثات مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية محمد صديقي أن هذا الاجتماع شكل فرصة للاستفادة من التجربة المغربية في إدارة السدود في إطار مخطط المغرب الأخضر وذلك لتعزيز الجهود التنموية في بلاده. نهاية الموجز، عودة إلى حميد رويسي وحلقة جديدة من برنامج مارس أفريكا. صباحكم سعيد.
Merci beaucoup à Mehdi Benelal. Justement, on va faire un tour d'horizon. On ira, mes amis, tout à l'heure en Guinée-Conakry avec notre ami Aliou Chérif, le Burkina Faso au programme avec Jean-Modeste Ouedraogo. Et puis l'actualité du football au Mali, au Bénin, en RDC, République démocratique du Congo, en Tunisie, bien entendu, avec mon ami Ahmed Adala. Et dans quelques minutes, Elisabeth Gouli sera parmi nous justement pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec l'émotion suite à ce qui s'est passé à l'international ivoirien, l'élève. Evan Dika, tout va bien, hein, il ne souffre pas de pathologie. On ira en parler avec Elisabeth de Sébastien Haller, qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Et puis cette bonne nouvelle, remise de minicar au club de première et deuxième division. Elisabeth Gouli au programme dans quelques minutes, juste après Diamond sur Radio Mars.
Gala, a chico pegue la fotosa, e un inizio se va lì.
Merci de nous écouter sur Radio Mars. Il est 10h08, vous êtes au cœur de Mars Africain ce samedi 20 avril. Et pour commencer, direction la Côte d'Ivoire avec notre amie Elisabeth Gouli. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Parlons de l'actualité justement en Côte d'Ivoire. On va commencer, si tu le permets, par l'international ivoirien, l'éléphant Ivan Dika. J'imagine qu'on en a beaucoup parlé en Côte d'Ivoire suite à son malaise. Le joueur de l'AS Roma, Dieu merci, va beaucoup mieux.
Oui, effectivement. Bonjour, amis auditeurs de la Radio Mars. Effectivement, l'état de santé de Ivan a fait les choux gras des journaux ivoiriens, au-delà même dans tous les cabarets, tous les points, vraiment, l'on faisait parler de la situation, de l'état de santé du sociétaire de l'AS Roma qui a eu un malaise sur le terrain à Udinese. Mais c'est vrai que cette nouvelle a attrité les gens un peu, ça a suscité une grande inquiétude dans le monde du football. Mais aujourd'hui, quand même, avec les nouvelles rassurantes données par son club, les gens sont plus ou moins satisfaits. Mais toutefois, on continue de parler de ça. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose après ça et autres, vraiment, il y a toujours des questions, ça suscite toujours des questions et des questions, en attendant que les examens plus poussés, en attendant d'avoir des informations encore au niveau de son cœur, même si on dit que les examens de niveau 1 et de niveau 2 qui ont été révélés sont négatifs, une pathologie cardiaque, mais toutefois, il y a une certaine inquiétude qui demeure et les gens ont toujours les yeux rivés sur l'éléphant champion d'Afrique.
Ouais, tout à fait. Autre éléphant, j'imagine qu'on a dû en parler dans la presse ivoirienne, Sébastien Haller, demi-finale de Champions League. Là, c'est la satisfaction. Il est en train de nous faire une saison incroyable, Sébastien Haller.
Oui, effectivement, il surprend à longueur de journée et il faut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment fier de joueurs qui, malgré la situation difficile qu'il a vécue, continue quand même de porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire, de porter haut le flambeau du drapeau ivoirien. Et c'est vraiment une satisfaction pour tout le monde.
Ouais, tout à fait. Bravo pour Sébastien à l'heure. Demi-finale de Champions League. Tiens, un mot aussi de, ça c'est la bonne nouvelle. Cette semaine, j'ai vu que Yacine Idrissa Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, avec la fédération, ils avaient remise de mini-cars au club de Ligue 1 et de Ligue 2. Il s'agit de 13 mini-cars, c'est bien ça, Elisabeth?
Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le football africain ivoirien. Pardon. C'est une nouvelle qui est vraiment bien accueillie par les clubs parce qu'on est en train de voir la situation précaire des présidents de clubs, la situation vraiment précaire de tous ces clubs qui ont vraiment du mal à déplacer leurs athlètes et autres. Et c'est vraiment quelque chose qui vient les soulager. Ces dons bien soulager. C'est vrai que bon, c'est pas des dons à proprement parler parce que ça serait prélevé sur les subventions que la fédération octroie à chaque club, donc ça sera prélevé. Mais c'est un soulagement dans la mesure où, en d'autres temps, ces clubs n'auraient pas eu les moyens de s'offrir ces cars de luxe. Et donc, c'est vraiment quelque chose de c'est précieux. C'est cette manière de faire et c'est une promesse de campagne qu'il respecte en permettant à chaque club d'avoir des équipements à tous les niveaux. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais ce geste est d'une grande portée pour tous les clubs ivoiriens qui, depuis longtemps, où les joueurs se déplacer ont des dents difficiles. Au-delà des cas, il faut dire aussi que avec son arrivée, quand même, il a amélioré certaines choses, notamment en augmentant la subvention qu'ils leur donnent, en permettant aussi, en demandant vraiment de revoir la rémunération salariale des joueurs et que ce soit fait par un virement bancaire et non des chèques ou des paiements main à main. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'évertuent à améliorer afin de permettre vraiment aux joueurs de vivre de leur art et d'avoir le club à la dimension, à la hauteur même, à la dimension de la Côte d'Ivoire. Et surtout qu'on vient la Côte d'Ivoire vient quand même de remporter le 34e trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut que les clubs qui sont l'émanation même du football ivoirien aient toutes les infrastructures et aient les moyens pour pouvoir offrir, pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de sortir encore de meilleurs joueurs, comme on l'a vu il y a plusieurs décennies. On sait que c'est la Côte d'Ivoire que vient un certain Laurent Poufou, c'est la Côte d'Ivoire que vient un certain Didier Drogba et autres. Donc, il faut un certain Abdoulaye Traoré, Gadi Seri et autres. Donc, c'est vraiment l'occasion de remettre le football ivoirien sur les rails.
Tout à fait, c'est une très très bonne nouvelle. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne donc qui vise à améliorer les conditions de travail des clubs de première et de deuxième division, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Yacine Idrissa Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. C'est un outil de travail, il faut en prendre soin. Merci beaucoup Elisabeth Gouli et rendez-vous le samedi prochain dans Mars Africa. Très bon week-end. Allez, à la semaine prochaine, Elisabeth. À suivre dans quelques minutes, direction la Tunisie avec notre ami Ahmed Adala, où justement, c'est l'événement en Tunisie, demi-finale de Champions League, l'Espérance face au Mamelodi Sundowns, champion en titre. C'est Ahmed Adala nous dira tout de ce match qui aura lieu aujourd'hui. Et cela juste après Rema sur Radio Mars. sur Radio Mars. Mars Africa se poursuit direction après la Côte d'Ivoire, direction la Tunisie avec mon ami Ahmed Adala pour parler de l'événement. Et l'événement en Tunisie, c'est cette demi-finale aller de la Ligue des Champions africaines qui oppose aujourd'hui l'Espérance de Tunis au Mamelodi Sundowns, tenant du titre. Bonjour, c'est Ahmed.
Bonjour, cher Hamid. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Il n'est pas le tenant de titre, mais il est le tenant de titre de l'African Football League. Tu me fais peur.
L'African League, tout à fait. Parce que voilà, je pensais où il date, le grand absent de cette saison. Voilà. La Champions League. Mais t'as raison, tout à fait. C'est... Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Parce que j'ai eu peur, là. Si on affronte le tenant de titre, ça sera indifférent.
Là, je suis d'accord avec toi. C'est la Super League. Mais qu'est-ce qu'on dit, alors, justement, du Mamelodi Sundowns?
Ben, c'est une grande équipe. Depuis 2016, elle enchaîne les succès, même si ils ont atteint peut-être trois fois le quart de finale. La demi-finale, ils étaient éliminés par le Wydad la saison passée, avec tout le mérite qu'a le Wydad, mais ils ont effectué un très bon parcours, une très bonne demi-finale, surtout au match aller. Mais là, le Mamelodi arrive avec un état physique. Peut-être, c'est l'un des arguments qui va peut-être jouer en faveur de l'Espérance. On sait tous que le noyau de la sélection sud-africaine qui a participé à la CAN, en grande partie composé par les joueurs de Mamelodi. Il y avait 9 joueurs de Mamelodi Sundowns. Parmi eux, il y avait 7 ou 8 qui ont disputé tous les matchs de cette CAN. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils ont joué l'African Football League, comme tu viens de le dire, ils ont remporté le titre, ils enchaînent les matchs. C'est pratiquement la même équipe qui a joué. Si on regarde les statistiques, on a pratiquement, sur le 11 joueurs qui ont disputé cette campagne de la Ligue des Champions dès les premiers tours éliminatoires jusqu'aux quarts de finale, c'est pratiquement la même équipe. C'est peut-être l'argument sur lequel va jouer l'Espérance sportive du Tunis, qui a également joué pas mal de matchs. Mais en termes de statistiques, c'est le Mamelodi qui est fatigué, épuisé, usé. Même son entraîneur l'avoue, son entraîneur qui est là depuis 4 ans, il a composé une équipe. Faut pas oublier que les moyens financiers mis à la disposition du club ont beaucoup aidé l'entraîneur. Après, c'est du 50-50, même si Sundowns reste toujours un club où face à qui il faut se méfier. On a vu le 2 quarts de finale contre les Young Africans, ouais. Ils n'ont pas marqué de but, ils se sont qualifiés sur une séance de tir au but d'ailleurs. C'était comme l'Espérance sportive du Tunis. Après, tout reste à jouer. Mais Hamid, les yeux seront rivés également sur l'autre demi-finale, ouais, entre le Mazembe et les pharaons, les Ahli égyptiens, le club du siècle. Parce que tout simplement, il faut que Mazembe ne passe pas pour que l'Espérance et Sundowns passe et garantit leur participation à la Coupe du Monde du club.
Ah, tout à fait. Alors l'Espérance qui pourra compter sur de nombreux supporters, on parle de 25 000 allez.
On parle un peu plus de 25 000, on parle de 30 à 32 000. C'est vrai qu'il y a eu 25 000, il y a déjà pour commencer, il y a 17 000 abonnés à l'Espérance sportive du Tunis. C'est un chiffre record. Ça, c'est il faut le mentionner. Après, il y a eu 9 150 billets qui ont été mis en vente. Mais il y aura toujours les invitations. Il ne faut pas oublier. On va peut-être partir sur 32 000 supporters qui seront présents au stade de Rades, qui, rappelons-le, la capacité maximale du stade elle est de 55 000, mais pour des raisons de sécurité, c'est beaucoup moins, 25, 30, 35 000 grand max. On va partir sur un match qui va se jouer sur le terrain, oui, mais le rôle des supporters sera bien évidemment primordial dans cette rencontre. Faut pas oublier aussi que l'Espérance est toujours sous la menace d'une sanction qui prend fin le 6 mai prochain. Donc les supporters vont devoir jouer leur rôle en poussant avec leur club pour garantir une victoire qui pourrait les aider à passer en finale. Et il faut pas aussi oublier que l'Espérance sportive du Tunis elle est sur une montée, sur une courbe descendante. Avec les derniers matchs, ils ont battu l'Étoile, ils ont battu le club africain au derby, on a vu un autre niveau de jeu avec l'entraîneur portugais, son staff surtout, hein, qui l'aide beaucoup, Miguel Cardoso.
Ouais, tout à fait. Parlons un petit peu du championnat. J'ai vu que la Ligue nationale de football professionnel a sanctionné le club sportif Sfaxien de 2 matchs à huis clos. Vous avez aussi ces problèmes de huis clos, votre championnat, Yaka Sehmet.
Ah oui, exactement. D'ailleurs, on en a parlé sur les ondes de Radio Mosaïque FM. En fait, avant les débuts des playoffs, la Ligue a adressé une correspondance à tous les clubs, leur informant que la loi sera appliquée par rapport aux décisions de huis clos. Le CSS était sous la menace et finalement, la décision a été appliquée, même si c'est un peu tard. Le club dit que c'était un peu tard de les informer par rapport à cette décision. D'ailleurs, on a vu le résultat. Le CSS a été éliminé hier par le dernier au classement de play-out. Je pense que il faut vraiment revoir cette décision, cette mesure. C'est vrai que l'article 43, il doit être appliqué, mais il faut vraiment chercher d'autres alternatives, genre la limitation des déplacements, la limitation, d'ailleurs on n'a pas de public qui fait le déplacement depuis des années, mais par rapport à la fermeture de quelques blocs, par rapport à la vue en hausse des sanctions financières, mais vraiment on ne manque pas que ça. Nous en Tunisie, le football, il y a beaucoup de choses à revoir. Parmi elles, cette décision d'instaurer le
huis clos et aussi l'arbitrage, parce que j'ai vu que votre consultant sur Mosaïque FM, Ammar Jamal, a dit clairement qu'il fallait peut-être recourir à l'arbitrage étranger. C'est comme au Maroc, l'arbitrage fait toujours polémique chaque week-end en Tunisie.
C'est surtout la VAR qui fait polémique. La VAR, ouais, c'est surtout la VAR. C'était un long débat. La VAR et la direction nationale de l'arbitrage exigent l'utilisation de 12 caméras. Elles sont pas vraiment utilisées avec la bonne manière. Ouais. Là, il y a beaucoup de décisions qui sont contestées. Le retour et le recours à l'arbitrage étranger, je pense que pour le moment, c'est un dossier fermé. Selon le directeur ou le chef de département de la direction, plutôt le directeur de la direction nationale de l'arbitrage que vous connaissez certainement, Neji Juini, un ancien arbitre international qui a dirigé la direction, l'instance de l'arbitrage au Qatar pendant des années. Lors de la dernière conférence de presse, il a dit que moi je suis pas prêt à faire recours aux arbitres étrangers. On va voir qu'est-ce que ça va se passer dans les prochaines journées. Il reste 6 journées dans les playoffs et 5 ou 6 journées dans la compétition des playoffs.
Tout à fait. Merci beaucoup à Ahmed Adel. Là, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine, à samedi prochain, très beau week-end. C'est Ahmed Adala. Maintenant, Tunis depuis la Tunisie à suivre. Après la pub, on parlera toujours, on continuera à parler de cette Champions League. C'est demi-finale après Espérance Tunis Mamelodi, c'est ce soir à partir de 20h. On va zoomer sur le très puissant Mazembe qui affronte là, en l'occurrence, le champion titre de la Champions League. Ali Al-Masri Michel Tebo sera parmi nous juste après la pub.
مباريات دور 26 بطولة احترافية القسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس. الوداد الرياضي غادي يستقبل حسنية أكادير نهار السبت مع 9 ديال الليل ملعب بشير بالمحمدية.
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس.
Merci de nous suivre sur Radio Mars. Il est 10h26. Mars, Africa, après la Côte d'Ivoire, la Tunisie, direction la République démocratique du Congo pour parler des demi-finales de Champions League avec nous. Ce matin, Michel Tobo, que je remercie. Bonjour Michel.
Bonjour Hamid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Et c'est à partir de 14h, le TP Mazembe face à l'El Mestri. Mazembe est capable de battre n'importe qui, c'est ce qu'a déclaré Lamine Diaye. Alors qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que dit la presse aujourd'hui par rapport à cette demi-finale?
Lamine Diaye essaye de redonner de la confiance à son équipe. Ça c'est clair, donc un entraîneur qui joue face à un gros calibre justement du football continental ne peut que déclarer de la sorte, parce que c'est d'abord lui qui doit guider son équipe pour aller justement essayer de bousculer cette équipe de El Ahly. Ça va être compliqué, on le sait, et le National du Caire, c'est une équipe expérimentée, champion en titre de cette compétition. Mais je pense que Mazembe a le fait de jouer à domicile a sa petite chance. Ça c'est ma propre analyse. Il faudra essayer d'éviter absolument le match que Mazembe a fait face au Petro Atlético lors du match aller avec ce 0-0, parce que un 0-0 à Lubumbashi cet après-midi au Caire dans une semaine, ça ne pardonnera pas. Hein. Ça, c'est clair. Je vois vraiment mal faire un 0-0 aujourd'hui et que Mazembe aille créer la sensation comme il l'a fait à Luanda lors de la rencontre face au Petro Atlético. Ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Mazembe est obligé aujourd'hui au moins de partir au Caire dans une semaine avec une petite avance, même d'un but, bien que ça sera toujours compliqué, mais avec un but, ça peut permettre justement à cette formation de Al Ahly de sortir de son confort hein, pour venir égaliser. Ça pourrait peut-être permettre à Mazembe d'avoir des espaces de contre-attaquer justement, voilà, essayer d'aller marquer un but au Caire, bien que, comme je le disais à tantôt, ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Mais c'est un match ouvert. Ce match aller, moi je pense sincèrement que c'est un match ouvert. Mazembe joue à domicile. L'objectif est clair, c'est d'essayer de bousculer cette équipe du national du Caire pour aller justement chercher une potentielle qualification, bien que Lamine Diagne le sait, les joueurs de Mazembe le savent, et même le président de Mazembe le sait également, Moïse Katumbi, que jouer à l'Arly, c'est toujours assez compliqué. Mais bon, c'est un match de football, ça se joue sur le terrain, et comme moi, personnellement, j'ai tendance à le dire, ce sera l'équipe qui sera mentalement forte, qui va certainement l'emporter, et qui aura la qualification pour la finale de cette compétition. Voilà, Amid.
Ouais, tout à fait. Toujours compliqué de jouer face à l'Arly. C'est ce que disait d'ailleurs Lamine Diagne. On sait qu'ils sont très chirurgicaux. Ils ont gagné 3 matchs à l'extérieur. Mais comme tu le disais à l'instant, Michel, vous jouez à la maison, devant votre public, et l'idée, c'est impérativement de gagner ce match. Alors, évidemment, il y a eu des polémiques. Ça a commencé en milieu de semaine avec la réponse cuisante du tout-puissant Mazembe. C'est un mensonge grossier. La réponse cash du TP Mazembe aux revendications du national de l'Ali. C'est quoi? C'est une histoire de bus mise en place. Qu'est-ce qui s'est passé justement à l'arrivée de l'équipe égyptienne?
Comme ça se fait de manière habituelle, hein, l'équipe qui reçoit offre, on va dire, les commodités à l'équipe qui visite justement les installations. Donc on offre un bus, on offre un hôtel, et voilà. Ben depuis quelques temps, certaines équipes qui ont, on va dire, des moyens préfèrent, on va dire, organiser la logistique elles-mêmes. C'est ce que le Al Ahly a fait, en fait. Il y a eu une équipe d'avance qui est arrivée à Lubumbashi, qui a fait ce qu'il devait faire, mais curieusement, il y a eu cette affaire qui est sortie. Personnellement, je suis étonné, et raison pour laquelle Mazembe, justement, a tenté de recadrer les choses en faisant ce communiqué. Mais bon, ça, c'est de l'extra sportif, hein. Je ne pense pas que, ce petit malentendu va faire en sorte que mentalement, et les joueurs des deux équipes puissent être, aller au-delà. Je ne pense pas. Donc, c'est un match qui va se jouer avec beaucoup de fair play. Je l'espère en tout cas sur le terrain, et que, la meilleure équipe va certainement faire un résultat et aller en finale. Donc, donc personnellement, je m'occupe pas trop de cette affaire parce que on est habitué à voir ce genre de malentendus lors des compétitions africaines interclubs. Donc, mais ça n'aura aucun impact, en tout cas, on va dire, sur les résultats du match.
Ouais, c'est vrai que c'est une fausse polémique puisque ça s'est réglé direct dans la demi-heure qui a suivi. Rassure-moi, vous avez pas laissé les joueurs de l'Ali toute la journée à l'aéroport dans des conditions incroyables, à l'image de ce qui s'est passé malheureusement hier, cette situation complètement lunaire et surréaliste qu'a vécu la renaissance sportive de Berkane en Algérie. Ça n'a rien à voir, hein. Là, en l'occurrence, il s'agit juste d'un bus, n'est-ce pas, Michel?
Oui, justement, c'est ça que j'ai dit. Mazembe, il faut quand même que je le dise, hein, Mazembe a toujours
bien accueilli.
C'est habitude de bien accueillir les équipes qui viennent jouer à Lubumbashi. Mazembe, c'est une équipe qui est nantie, qui a beaucoup de moyens. Je ne pense pas que ça soit un bus ou un hôtel qui peut faire en sorte que Mazembe puisse mal recevoir les équipes qui viennent jouer avec lui sur place à Lubumbashi. C'est ça que je vous disais tantôt. Mazembe a fait l'essentiel, justement, de donner tout ce qu'il pouvait donner. Mais bon, c'est le Al Ahly qui a refusé, justement parce qu'elle avait déjà envoyé une équipe d'avance ici pour, voilà, organiser sa logistique. Bon, voilà, c'est ce qui est arrivé après. Donc, ce n'est plus de la responsabilité de Mazembe. Donc, voilà, ça, c'est Al Ahly qui doit avoir ça avec, voilà, l'entreprise qui lui a loué le bus ou encore certaines personnes qu'ils ont contactées sur place à Lubumbashi pour, justement, organiser cette logistique également. Donc, une raison pour laquelle je disais tantôt également, Mazembe a réagi par ce communiqué, tout simplement.
Tout à fait, pour répondre à Lille Mestri. Merci beaucoup à Michel Tobo, match à suivre, donc à partir de 14h, TP Mazembe Lille Mestri, l'autre demi-finale aller de Champions League, match compliqué pour le très puissant Mazembe, comme le signalait à l'instant notre ami Michel Tobo. Alors évidemment, fausse polémique, rien à voir avec ce qui s'est passé en coupe de la CAF pour notre équipe marocaine, la Renaissance Sportive de Berkane. C'est incroyable, mais vrai. Mais ce qui s'est passé, l'aéroport en Algérie, puisque bon, ils ont gardé l'équipe pratiquement toute la journée, tout simplement parce qu'ils voulaient pas laisser l'équipe d'El Berkane rentrer en Algérie avec le maillot d'El Berkane, où on y retrouve la carte d'El Brahim. On va en parler beaucoup, évidemment. À suivre, mes amis. On ira au Bénin avec Élisée Ounkpatine, Jean-Modeste Ouedraogo sera parmi nous pour l'actualité au Burkina Faso, et puis Drissa Nyonyo mène le Mali après Fais-moi confiance sur Radio Mars.
Je te fais confiance, comme on l'a met, ma calendaire, mon chéri, la bisou.
Sidiki Diabaté sur Radio Mars. Allez, mes amis, après la République démocratique du Congo, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, direction le Bénin avec notre ami Élisée Ounkpatine. Bonjour. Bonjour, Élisée.
Oui, bonjour, Amine Rouissi, et bienvenue au Bénin.
Bienvenue, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'entendre, Élisée. Et surtout pour parler de l'actualité à foot, l'actualité sport au Bénin, dominée par cette subvention aux fédérations et associations sportives accordées par le gouvernement béninois. Ça s'est passé cette semaine, me semble-t-il. On parle de plus de 4 milliards de francs CFA au club béninois.
Bien évidemment, normalement, les clubs de première division, bon, quand je parle de première division, je l'ai déjà expliqué le week-end dernier, où il y a ce championnat qui se dispute entre 36 clubs, hein, où il y a la première phase où tous ces clubs sont répartis en quatre zones, deux zones au sud, une zone au centre, puis la dernière zone où se trouve dans le septentrion, la partie septentrionale du pays, la partie nord pour être précis, et puis après cette phase, il y a deux autres phases, la Super League Pro qui concerne les clubs qui vont jouer pour le titre de champion et pour les deux représentants béninois aux interclubs de la CAF. Et puis, la Ligue Pro Suite qui concerne les clubs qui jouent la relégation, et qui jouent leur suivi pour ne pas être relégués en division inférieure. C'est vrai qu'il n'y a pas de deuxième division, mais il y a un championnat de première division qui concerne 36 clubs. Et puis, le championnat amateur qui commence par la troisième division et après les championnats régionaux. Donc vous imaginez, donc cette subvention concerne bien évidemment ces clubs-là, les clubs qui évoluent en Super League Pro, qui ont perçu chacun 60 millions. C'est vrai que tous les clubs n'ont pas perçu cette somme. Bien évidemment, quand je parle de 60 millions, ça va bien évidemment... près de 92 000 euros, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, ça fait pratiquement 1 million de dirhams, 1 million de dirhams, la monnaie marocaine. Donc, c'est à peu près ça, 60 millions de francs CFA. Mais tous les clubs n'ont pas perçu, comme je l'ai dit, puisqu'il y a certains clubs qui sont gérés déjà par des sociétés, de grandes sociétés de la place, puisqu'on parle là de ces clubs-là qui n'ont pas perçu. Et ils sont près de 5 clubs, hein, c'est 6 pour être exact. Donc, 5 clubs n'ont pas perçu, puisque c'est une affaire de TDS, hein, l'État sur de ces clubs-là. Donc, quand vous êtes à jour par rapport aux impôts, par rapport au fisc, quand vous avez de grandes sociétés et que vous gérez un club de football ou un club de handball ou encore un club de basketball dans le pays et que vous investissez dans ces clubs-là, eh bien, ça montre clairement que vous êtes à jour vis-à-vis par rapport au TDS. Donc, là, vous ne percevez plus, puisque le club, ce qui devait gérer aux impôts, il le met déjà au niveau de ces clubs-là. Donc, quand la subvention arrive, donc, puisque les différentes subventions, Amine, il faut le dire, les 7 différentes subventions proviennent bien évidemment de ces impôts-là, de ce que l'État souscrit auprès de ces grandes sociétés afin de reverser à ces clubs-là qui n'ont ni partenaire, ni sponsor. Donc, tous les clubs n'ont pas perçu ces colossales sommes. Donc, vous imaginez, donc, les clubs de la Super League Pro qui n'ont pas de sponsor, qui n'ont pas de partenaire, qui n'ont personne, hein, pour investir pour eux, bien ces clubs-là ont perçu chacun près plus d'un million de dirhams. Ceux qui évoluent bien évidemment en Ligue Pro Suite, eh bien, ils ont reçu chacun 40 millions de francs CFA, environ 677 000 dirhams. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut les permettre quand même à bien gérer cette saison qui tire vers sa fin, puisque la saison sportive footballistique va prendre fin au Bénin en fin juin. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé en milieu de semaine. Comme je l'ai dit, tous les clubs n'ont pas perçu, puisque ces clubs-là, qui sont déjà gérés par les grandes sociétés, ont été écartés tout simplement. Ce sont les clubs qui n'ont pas de sponsors, qui n'ont pas de partenaires, qui n'ont personne pour investir. Donc, ce sont ces clubs-là qui ont perçu. Certains clubs même ont vu leur quota diminuer un peu puisqu'ils n'ont pas rempli les cahiers de charges. Donc, vous imaginez, donc, le nouveau ministre l'a dit clairement, il faudra que les clubs respectent les cahiers de charges. Donc, très prochainement, ce sera ainsi. Et tout porte déjà à croire, comme je l'ai déjà expliqué le week-end dernier, la saison prochaine, on risque de voir la fin de cette formule à 36 clubs. Le prochain championnat qui va démarrer en août prochain, eh bien, ce sera idem, hein, ce sera pareil, ça va composer ces 36 clubs. Mais à la fin de ce championnat-là, eh bien, les 18 meilleurs clubs issus de cette première phase seront déclarés clubs qui vont évoluer la saison 2026 en première division. ceux qui restent vont évoluer en deuxième division et puis ainsi de suite. Donc, le Bénin verra prochainement son championnat revenir à la normale comme ce fut le cas il y a près de 5 ans ici. Donc, voilà un peu l'actualité. Les subventions ont été distribuées. Les différents secrétaires sont allés chercher le chèque. Donc, aujourd'hui, les caisses sont pleines. Donc, il y aura plus de problèmes de paiement de salaire, de paiement de primes de match ou des primes de signature non versées depuis le début de la saison. Donc, ces problèmes seront réglés puisque le ministre des Sports l'a dit, il a été clair par rapport à ça. L'agent public ne servira pas à régler des problèmes personnels, mais régler la situation actuelle des joueurs, régler leur salaire, leur prime de match ou encore leur prime de signature.
Tout à fait. Tant mieux pour le football au Bénin. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Élisée Ounkpatine. Et je te donne rendez-vous le week-end prochain, samedi prochain, dans Mars Africa. Mes amis, il est 10h43 sur Radio Mars, après le Bénin, direction le Burkina Faso, avec mon ami Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour Jean-Modeste. Jean-Modeste devrait être parmi nous, justement, Jean-Modeste, pour parler avec lui de l'actualité du football au Burkina Faso, avec notamment les clubs des Ligues 1 et 2 qui mettent fin au boycott des activités de la Fédération Burkinabé de football. Et j'aimerais aussi le faire réagir sur Brahma Traoré, que des préjugés favorables des acteurs du football qui sont unanimes à lui reconnaître compétence, abnégation et discipline, le nouveau coach du Burkina Faso. Il est avec nous, Jean-Modeste, bonjour.
Bonjour Abid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mass.
Je voulais te faire réagir parce que j'ai vu un article où on parlait beaucoup en bien du nouveau coach, nouvel entraîneur des étalons, Brahma Traoré. Tout le monde parle de compétences, de sérieux, d'abnégation, de discipline.
Ben oui, parce que effectivement, Brahma Traoré, c'est un monsieur qui a 62 ans déjà, donc voilà, ça veut dire qu'il a vu passer pas mal de choses. Et puis en plus, il a longtemps été entraîneur adjoint avec les étalons sous le sélectionneur Paul Put, sous le sélectionneur Guénot Rohr, que vous connaissez très bien. Il a été adjoint également de Paulo Duarte. Il a été adjoint de pas mal d'entraîneurs. Donc, du coup, il a cette expérience-là. Il a aussi gravi tous les échelons, j'ai envie de dire. Il a été entraîneur du club RCB. Il a été entraîneur des étalons cadets, des étalons juniors, des étalons locaux, des étalons espoirs. Donc, je pense que sur le plan du CV, il a le CV pour. Mais maintenant, après, effectivement, voilà, il est arrivé avec une communication qui n'a pas beaucoup plus aux supporters, parce que il parle de discipline, de ramener la sérénité, voilà, d'écarter un peu les indisciplinés, alors que bon, voilà, d'aucuns pensent que dans cette équipe de Burkina il n'y a pas véritablement d'indisciplinés, parce que quand vous prenez un garçon comme Youssoufou Dayo qui évolue du côté de Berkane au Maroc, c'est un garçon tellement poli, tellement gentil, c'est un garçon tellement sérieux qu'on ne peut pas penser que c'est un garçon indiscipliné. Quand vous prenez un garçon comme Bertrand Traoré qui évolue aujourd'hui à Villarreal en Espagne, on ne peut pas penser que ce garçon également est indiscipliné. On ne sait pas sur quoi Brahma Traoré se base pour parler d'indiscipline. Alors, aujourd'hui, il est attendu au pied du mur, parce qu'après les deux matchs amicaux qui ont été joués du côté donc du Maroc, voilà, les deux matchs amicaux ont été soldés, Hamid, ont été soldés par une défaite du Burkina contre la Libye et puis un match nul contre le Niger. Donc, le scepticisme commence à gagner un peu, les supporters commencent à gagner, les observateurs, les gens pensent que Brahma Traoré n'aura pas suffisamment les épaules pour pouvoir affronter l'Égypte en juin et puis la Sierra Leone effectivement en juin. Donc voilà un peu comment je peux expliquer la situation, mais toujours est-il que les tensions sont toujours vives. Brahma qui essaie de désamorcer un peu les tensions, et il est en train de soigner un peu sa communication. Il est en train de dire un peu aux uns et aux autres que non, voilà, lui n'a jamais voilà voulu vraiment écarter des joueurs. Il veut tout simplement apporter du sang neuf, de nouveaux joueurs qu'il veut tester. Voilà un peu la raison. Donc voilà comment on peut expliquer la situation à Bétis.
Comme quoi ça va vite dans le football, entre ce qu'on disait de lui à sa nomination et aujourd'hui les critiques qui commencent à fuser. Ça va vite aussi le championnat du Burkina Faso, puisque les clubs des Ligues 1 et 2 ont mis fin au boycott des activités de la fédération. C'est rentré dans l'ordre, c'est bon, tous les clubs devraient reprendre bientôt les compétitions de football.
Oui, les clubs ont bel et bien repris. Les clubs ont repris depuis mercredi. Les matchs ont été joués, la 20e journée notamment de la Ligue 1. Et puis voilà, la 12e journée de la Ligue 2, voilà, ont été déjà joués. Ce week-end déjà, ce soir, on est samedi. Voilà. Donc il y a des matchs au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Il y a des matchs aussi à Bobo-Dioulasso. Il y a des matchs partout dans le pays. Donc effectivement, le boycott a été levé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est grâce à l'intervention, de Sa Majesté le Moro Naba Bango, le chef des Mossé, donc qui a accepté d'être l'intermédiaire pour parler au club, leur dit, ben écoutez, il faut sauver la saison. Il faut sauver la saison en attendant qu'on se penche à suivre vos revendications. Sauver juste la saison, parce que les premiers perdants, ceux qui vont perdre, qui perdent actuellement, ce sont les clubs, ce sont les joueurs, ce sont tous ces acteurs-là qui gravitent autour du football, voilà, qui ne travaillent plus, qui sont au chômage. Et donc, il faut sauver la saison pour aussi honorer le calendrier de la CAF, permettre aussi aux clubs burkinabés qui participent à la campagne africaine de pouvoir terminer la saison et être inscrits au niveau donc du calendrier de la CAF. Donc, oui, c'est vrai, le foot a repris et je pense que c'est pour le bien du football burkinabé.
Bien sûr, et tant mieux pour les supporters. Merci beaucoup à Jean-Modeste Ouedraogo en direct depuis le Burkina Faso et je te donne rendez-vous la semaine prochaine à suivre, à mes amis, direction le Mali avec Drissa Nyonyo pour parler de l'actualité foot au Mali. Et l'actualité au Mali, c'est le nouveau visage du stade Babadou Konaté, puisque le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé cette semaine la cérémonie d'inauguration du stade Mamadou Konaté, réhabilité grâce à l'engagement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On parlera aussi des demi-finales de Coupe du Mali avec le choc entre le stade malien et le Djoliba. Bonjour Drissa. Drissa Nyonyo en direct depuis le Mali. On l'entend Drissa, il ne nous entend pas. Bonjour Drissa. Alors visiblement, on a quelques noms, on l'entend très bien. En tout cas, on entend l'environnement. On était d'un coup au Mali, voilà, qu'il n'a visiblement, il ne nous entend pas. On va essayer de le joindre dans un instant. Je vous le disais, avec l'actualité au Mali, cette demi-finale de Coupe du Mali. C'est un choc entre le stade malien et le Djoliba. Et puis le stade, le nouveau visage du stade Mamadou Konaté, c'est l'actualité. Bonjour, rebonjour Drissa.
Bonjour Rami, bonjour à toutes et à tous.
Alors on commence par le nouveau visage du stade Mamadou Konaté, ça s'est passé cette semaine et c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a présidé à la cérémonie d'inauguration de ce stade Mamadou Konaté, réhabilité grâce notamment au président.
Exactement, donc le stade Mamadou Konaté qui a été rénové, donc le stade a été fermé en février 2023 pour rénovation parce que les acteurs, surtout les entraîneurs se plaignaient de la qualité de pelouse de synthétique qu'avait le stade, qui avait été rénové. La dernière rénovation remontait en 2010. Alors, les joueurs se plaignaient que le synthétique était usé et que le stade également avait besoin de rénovation. Finalement, il sera fermé en février 2023 et 20 mois plus tard, donc ce stade va être réouvert. Donc, pour être mis à la disposition des acteurs sportifs du pays. Alors, c'est un stade qui a été rénové pour le mettre aux normes internationales, mais il a été mis aux normes internationales de catégorie 1, d'après ce que nous avons vu, parce que quand on regarde un peu le cahier de charge de la FIFA, donc pour que les aigles seniors puissent jouer, il va falloir remplir d'autres critères qui ne sont pas encore remplis. Sinon, en termes de quand même de rénovation, les places VIP, les places assises, et ensuite la pelouse synthétique a bénéficié d'une pelouse de dernière génération. Il y a eu également
une salle antidopage,
qui a été construite pour permettre la pratique de d'autres disciplines sportives, dont notamment le volleyball ou encore le basketball ou le tennis. Et donc, c'est un stade quand même qui a été rénové, dont le visage quand même a changé. Et ça a été quelque chose qui a vraiment fait du plaisir aux joueurs parce que les premiers qui ont bénéficié des premiers joueurs pour jouer dans cette nouvelle infrastructure du stade Mamadou Konaté, en tout cas, les joueurs quand même ont apprécié, dont notamment les aigles seniors, les cadets qui sont devenus seniors. Ils ont joué en amical face à la nouvelle génération cadette du Mali. et ces Cadets ont été battus 4-0.
Ouais, tout à fait, avec aussi une piste d'athlétisme aux normes internationales, un stade avec une piste d'athlétisme, tant mieux, hein, rénovation donc du stade Mamadou Konaté. Alors l'actualité, c'est aussi au Mali, cette demi-finale qui se profile de Coupe du Mali, et un choc entre le stade malien et le Djoliba. Qu'est-ce qu'on dit justement?
Exactement, les deux grands clubs du Mali qui vont s'affronter cette fois-ci en demi-finale de la 63e édition de la Coupe du Mali. Alors, le Djoliba en a remporté 20 fois et le Stade 22 fois, et c'est les deux qui sont également les plus titrés dans cette compétition. Alors, cette année, il y a le Stade qui avait débuté tambour battant la saison, mais finalement, récemment, avait du mal à enchaîner les victoires, ce qui a eu raison de son ancien coach Sékou Seck Dibako, remplacé par Mamoutou Kanimourlé, qui va perdre en Coupe de la Confédération. Mais en championnat, après 6 journées sans victoire, le Stade est quand même parvenu à remporter une victoire. C'était face au Binga FC, et le Djoliba enchaînait sa 6e victoire en championnat. Alors les deux vont jouer ce week-end en championnat avant de s'affronter en demi-finale également le dimanche 28 février. Mais cette fois-ci au Stade 26 mars, et entre ces deux, alors qui va gagner? En tout cas, c'est difficile quand même de pronostiquer sur une victoire de l'un ou de l'autre, parce que ces deux formations sont imprévisibles lorsqu'elles s'affrontent. C'est vrai, cette année, le Stade a gagné un match aller du championnat 2-1 et le Djoliba en match retour également 2-1. Et cette fois-ci, l'acte 3 qui va remporter, en tout cas, c'est l'interrogation aujourd'hui ici au Mali. Par ailleurs, dans l'autre affiche de demi-finale, elle opposera l'AS Bakar Diané de Barawuli, finaliste en 2007, et Afrique Foot Elite AFE, donc une formation de 2-2 qui est remontée en Ligue 1 il y a de cela 3 saisons, donc dont la dernière demi-finale remonte également en 2018, et c'était face au Djoliba AC. Et cette formation, à l'époque, était dirigée par un certain El Bilal Touré, qui est volé du côté aujourd'hui de l'Atalanta de Bergamo. En tout cas, en cas de victoire de AFE, ce sera une première d'arriver en finale de Coupe du Mali, et la deuxième pour l'AS Bakar Diané de Barawuli. En tout cas, pour le Djoliba ou pour le Stade, ce sera encore une fois une 30e d'un finale de Coupe du Mali, même si au nombre de titres remportés, le Stade est devant.
Tout à fait, c'est un super match, ce derby national entre les deux géants du football malien, prévu donc pour le 28 avril au stade du 26 mars de Mabako. Ça promet évidemment un spectacle passionnant, le stade malien face au Djoliba. Merci beaucoup pour toutes ces informations à notre ami Drissa Nyoyo en direct du Mali. Pour terminer l'actualité Afrique, dans Mars Africa, on va terminer par le Maroc et le Morocco Desert Challenge, le deuxième plus grand événement de rallye au monde et le plus grand sur le sol africain. Il accueille près de 1300 participants, équipages, équipes et organisations venues d'une trentaine de pays du globe. Cet événement se veut, après le Dakar, l'un des plus grands rallye raid du globe. Et nous, on a eu l'avantage toute la semaine d'avoir un résumé de chaque étape grâce à notre pilote marocain Amine Chiguer. Hier, c'était l'avant-dernière étape. Bonjour Amine.
Bonjour Hamid, difficile pour moi ce matin de cacher ma déception sur le Morocco Desert Challenge. Donc je le rappelle, c'est quand même le deuxième plus gros rallye d'Afrique en termes de concurrents, de nationalité, de véhicules engagés et de personnes mobilisées sur place. Donc voilà, j'étais sur le point de faire vraiment une performance exceptionnelle qui à mes yeux a autant de valeur que le championnat du monde gagné en 2022, parce que devant le plateau était vraiment très très élevé, avec des pilotes en mondial, en GP, des pilotes comme Paul Tarès. Donc voilà, j'ai tenu tête à des pilotes de très haut niveau toute la semaine. J'ai même été devant eux à certains moments. Et hier, ma moto, qui, je le rappelle, est une moto classique, juste, c'est une moto qu'on a préparée, une moto d'enduro qu'on a préparée, c'est pas une véritable moto de rallye. Le support s'est brisé, le support de navigation s'est brisé au milieu de la piste, sans aucune chute, sans rien du tout. Et pourtant, on n'a vu aucun signe de faiblesse auparavant, ces derniers jours. Donc voilà, tout s'est arrêté pour moi à ce moment-là. J'ai dû rejoindre une route et il y a des nomades qui m'ont aidé parce que j'avais plus aucun instrument de navigation. Tout s'est arraché. Et il y a des nomades qui m'ont aidé à rejoindre la route la plus proche où mon assistance m'a récupéré. C'était la fin, pour moi, c'était la fin du rallye. J'étais très, très déçu. Vraiment très déçu. Sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de réactions sur Facebook, Instagram. Vraiment beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui me demandent pourquoi tu n'as pas une vraie moto de rallye. Sauf que les gens ne comprennent pas que ça coûte plus de 40 000 euros. C'est des motos qu'il faut commander un an à l'avance. Il n'y en a que 50 produits par an. J'ai eu le OK du fabricant pour en avoir une, mais aligné plus de 40 000 euros, plus 10 000 euros de pièces détachées, de roues, machin. C'est un sacré budget. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de défauts de paiement des sponsors ces dernières années. Donc pour moi, ça va être vraiment compliqué. Ça a été vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué d'arriver à essayer de tenir tête à des pilotes, à des Team Factory aussi bien équipés, aussi préparés. Il faut voir Yamaha par exemple, ils sont arrivés, ils étaient 30 avec des semi-remorques. C'est vraiment de très grosses teams. Et nous, il y a moi, Ayoub, mon mécanicien, et Miloud, chauffeur accompagnateur, on est trois. C'est clairement pas les mêmes budgets, c'est clairement pas les mêmes moyens. Et voilà, franchement, ça va être un peu mon petit coup de gueule ce matin, mais la réalité, c'est celle-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime me plaindre. J'aime pas me plaindre, mais j'ai toujours fait avec ce que j'avais. Mais là, voilà, c'est vraiment un défaut de matériel, un défaut de moyens qui fait que ça n'a pas marché. Je te remercie de m'avoir suivi toute la semaine. Je remercie Radio Mars et je vous dis à la prochaine course.
Merci beaucoup. On est fiers d'Amin Chigara parce qu'il y a une forme d'injustice, clairement. Un défaut de matériel, défaut de moyens. Et dire que jusqu'à l'avant-dernière étape, il était à quelques secondes de la deuxième position. En tout cas, de tout cœur, fier de notre champion marocain Amin Chigara. On aura l'occasion de l'inviter dans Mars Attack. Merci en tout cas à tous nos correspondants un peu partout en Afrique, à savoir Jean-Modeste Ouedraogo du Burkina Faso, Drissa Nuyo du Mali, Élisée Ounkpatine du Bénin, Michel Tobo de la République démocratique du Congo et puis Ahmed Adala de Tunisie, Elisabeth Goli de Côte d'Ivoire. Il est pratiquement 11h du matin sur Radio Mars. On se donne rendez-vous lundi pour la matinale de Radio Mars.